Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image.
Septembre 2001, 15h33, David Pujadas, 36 ans, venait d'arriver à France 2 après avoir passé plusieurs années sur LCI. Il présentera le 20h pendant 16 ans sur la chaîne publique. Aujourd'hui, il est à nouveau un visage de LCI. Avec lui, nous retraçons ces folles heures de télévision où les journalistes ont reçu les images avant de connaître les faits. Et quelles images ? Celles de l'attentat perpétré contre le World Trade Center surpassent à ce point la réalité par leur force évocatrice qu'elles convoquent ou anéantissent au choix les scénarios de fiction les plus catastrophistes. 20 ans après, nous aimerions comprendre comment les duplex en direct et les chaînes Tout Info ont radicalement transformé la télé, comment aussi, dans cette accélération de l'information, les journalistes allaient apprendre à travailler avec des images pensées par des terroristes, quand et comment les professionnels de l'info allaient prendre la mesure d'un nouveau phénomène médiatique, la théorie du complot.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour David Pujadas.
Bonjour Sonia.
Un crochet par France Inter et LCI ce soir à 18h pour 24h Pujadas. Au moment où ça commence, il est à peine 15h en France. Vous venez d'arriver à la rédaction de France 2. Vous aviez passé des années sur LCI. À 15h, on commence à préparer le JT de 20h.
Oui, on commence à le préparer à 9h du matin en vérité.
C'est ça.
Il y a une première conférence à 10h30 et à 15h, on est déjà dans presque la finition, enfin déjà on met en forme, on commence à mettre en forme le JT au moins dans sa tête.
C'est ça, et il y a eu l'attentat commis contre Massoud en Afghanistan, donc d'une certaine manière, vous allez déjà parler de terrorisme.
On a déjà parlé de terrorisme et malgré tout dans le coin de notre tête aussi, je dis ça en anticipant peut-être un peu vos questions, mais il y a quand même le souvenir de cet attentat manqué au sous-sol du World Trade Center, et il y a aussi le souvenir des attentats, je crois que c'était sur des bâtiments américains au Kenya ou en Tanzanie quelques années avant. Le nom de Ben Laden est déjà quand même un peu dans les esprits, très en arrière, mais il est déjà un peu connu.
Alors vous êtes le transfert de cette rentrée télé dans le mercato de la télévision. Une caméra de Canal+ suit vos premiers pas dans la rédaction de France 2. Et donc on vous voit découvrir la première image du premier avion percutant la première tour.
Enfin, c'est pas l'avion percutant la tour. En fait, j'arrive et on me dit il y a un avion qui est rentré dans la tour. Et on voit un petit filet de fumée.
L'image. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas l'image de l'avion entrer dans la tour? Vous voyez seulement le petit filet de fumée?
Oui, le petit filet de fumée. Et moi, je crois que c'est un avion de tourisme.
On va écouter votre réaction parce qu'elle vous poursuit depuis 20 ans.
Bien sûr, bien sûr.
14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident. Incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences.
Là, c'est mieux que Concorde, quand même. On est battu, là.
C'est mieux que le Concorde.
C'est pas moi qui parle du Concorde.
Battu. Non, c'est un confrère. C'est-à-dire que à ce moment-là, pour vous, c'est une catastrophe aérienne et une catastrophe aérienne dont vous ne mesurez pas l'ampleur.
Non, oui. En fait, c'est même pas. Ça n'excuse pas la réaction, honnêtement, qui est nulle. Enfin, il y a une caméra de télé. Je vais faire le malin devant la caméra de télé. Vous l'avez dit. J'ai 36 ans. Je suis inconnu, pas légitime. Et je fais le malin, je fais le blasé, quoi. Ouais, génial. Il n'y aurait pas eu la caméra, je ne sais pas si je l'aurais dit, mais malgré tout, je ne cherche pas à excuser le jeune écervelé que j'étais à l'époque, mais je pensais que c'était, vous savez, quand vous allez à New York, vous volez dans ces petits avions ou ces hélicos pour survoler Manhattan.
Oui.
Et je pensais qu'il était rentré dans la tour. Le journaliste de Canal me demande ensuite, est-ce que vous allez en parler ce soir ? Je dis, ça fera peut-être une image à la fin du JT.
Une brève.
Voilà, donc on n'était quand même pas sur le 11 septembre.
Ouais.
Voilà.
Qu'est-ce qui décide une rédaction à breaker, comme on dit dans votre jargon ? Qu'est-ce qui décide une rédaction à passer en édition spéciale ? Je rappelle qu'à l'époque, le service public n'a pas de chaîne Tout Info. Donc ça repose sur vos épaules, à vous, journaliste de France 2 et journaliste de France 3.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous décide ?
C'est une décision exceptionnelle qui est prise par le directeur de l'info, c'est Olivier Mazerolle à l'époque. Ce qui nous décide, c'est quand on sait que, quand on apprend que c'est un avion de ligne. Mais c'est-à-dire 2 minutes après le moment qu'on évoque. À partir du moment où on sait que c'est un avion de ligne, On ne sait pas encore que c'est un attentat. Mm-hmm. On pense que c'est un accident. Mm-hmm. On saura que c'est un attentat un quart d'heure plus tard, quand on apprend qu'un deuxième avion a percuté une deuxième tour.
17 minutes après, exactement.
Mais une catastrophe aérienne, un avion de ligne qui rentre dans une tour du World Trade Center,
ça mérite
suffit déjà.
Déjà
à déclencher une édition spéciale.
Oui. Donc vous allez prendre l'antenne à 15h33. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est tard, 20
Bien
ans
sûr que c'est
après.
Tard. Bon, on n'interrompt pas le feuilleton, je ne sais plus si c'est...
Léa Sommer, commissaire Léa Sommer, un truc d'une ringardiste totale.
Voilà, ouais. Mais je me souviens très bien de cette scène. J'attends, je suis maquillé, j'attends sur le plateau de prendre l'antenne et on laisse le feuilleton se terminer. Aujourd'hui, bien sûr qu'on interromprait le feuilleton et on aurait raison de le faire.
Ah oui.
Et on aurait raison de le faire. On est dans le creux de l'après-midi, c'est quand même pas des programmes d'une particulière intensité. Non. Donc je pense bien sûr qu'on interromprait le programme plus court.
Avec quand même cette réserve que l'information s'est considérablement accélérée, enrichie et aussi accélérée, ce qui pose des problèmes. Je sais qu'à ce micro, Christine Ockrinthe nous a dit un jour, elle a présenté sur Antenne 2, bien avant vous, le 20h, et elle disait « Nous, à l'époque, on avait les faits ». Et ensuite, on cherchait des images. Aujourd'hui, on a les images et ensuite, on a les faits. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ce qui vous est arrivé.
C'est une caractéristique particulière du 11 septembre, mais qu'on n'a pas revu ensuite beaucoup. C'est-à-dire que l'attentat, on le voit d'abord par l'image. Enfin, la catastrophe, on la voit d'abord par l'image avant de connaître les faits. Mais l'image suffit. Enfin, l'image a un fort pouvoir informatif, en l'occurrence. D'abord, quand vous voyez le deuxième avion, il ne faut pas être grand clair pour deviner que c'est une action criminelle, que c'est une action organisée. La coïncidence que deux avions le même jour rentrent dans des tours serait inimaginable. Là, c'est simplement un peu de déduction. Mm-hmm. Ensuite, vous connaissez le World Trade Center. Moi, je connaissais le World Trade Center. Je sais ce que ça représente. Je sais qu'un
symbole, c'est... C'est-à-dire que quand vous êtes à l'époque au micro sur le plateau, vous connaissiez déjà New York, vous connaissiez les tours du World Trade Center?
Oui, je connais New York, je connais le World Trade Center, j'y suis monté.
D'accord.
Je suis monté dans une des tours en regardant l'autre.
Donc vous pouvez les décrire aux téléspectateurs français?
Voilà, je peux dire ce que c'est que le World Trade Center, le symbole que ça représente, la configuration telle qu'elle est. Je sais que c'est des tours de 400 mètres de haut, à peu de choses près. Je sais que ce sont les plus hautes tours des États-Unis. On a quand même quelques points de repère.
Mais comme vous découvrez ces images totalement spectaculaires en direct, vous diriez que vous avez été... Vous, à la fois présentateur et téléspectateur, c'est-à-dire exactement comme nous, vous avez été téléspectateur en direct sur le plateau télé?
Bien sûr, et encore plus quand les tours s'effondrent.
Oui.
Quand les tours s'effondrent, ce qui est le moment le plus bouleversant, parce que brusquement on réalise qu'il y aura des morts, des centaines de morts. Avant ça, on le réalise à peine. On se dit, bon, les occupants de l'avion, eux vont mourir... quelques personnes, mais quand les tours s'effondrent, ça acquiert une toute autre dimension. Et là, je suis, comme vous dites, totalement téléspectateur. Donc là, vous êtes journaliste et vous êtes en même temps, spectateur, téléspectateur. Donc, vous êtes saisi par le même effroi, d'une certaine manière. Mmh. C'est dans ça que cet exercice était très particulier. C'est qu'encore une fois, il se déroulait sous nos yeux, d'autant que j'ai appris en direct qu'il y avait un troisième avion sur le Pentagone, puis un quatrième avion en Pennsylvanie, et que je me demandais s'il allait y en avoir un cinquième, un sixième. Bref, c'est
le
en Pentagone, ça que c'était un peu
unique. C'est vraiment, ça s'est déclenché 10 minutes après votre prise d'antenne. On va refaire le déroulé de la journée. 15h33, vous prenez l'antenne sur France 2 après le feuilleton. Vous gardez l'antenne jusqu'à 17h. Vous disparaissez entre 17h et 20h, remplacé par Bill Allian. J'imagine que vous partez préparer le 20h.
Préparer le 20h, voilà.
C'est ça. Vous allez présenter un 20h exclusivement dédié à l'attentat de 20h à 23h. Et puis refeuilleton sur France 2, et puis réédition spéciale. On sent bien que la télévision française a du mal à manier le breaking news.
Bah, c'est la préhistoire du breaking news. Et ce que vous disiez au départ, on n'a pas interrompu le feuilleton, c'est la même chose pour le programme de 23h. On se dit, on va quand même passer la série qui passe à 23h. Mmh. Et puis une demi-heure après, on se dit, c'est pas possible. Mmh. Donc on interrompt le truc et on repart à l'antenne pour continuer, d'autant qu'avec le décalage horaire, voilà, New York se lève pas, mais c'est la journée à New York, donc on continue.
Vous avez raconté dans une très ancienne interview, puisqu'on parle de faits qui ont lieu il y a 20 ans, que vous êtes rentré chez vous en pleine nuit. On imagine à quel point c'est difficile de trouver le sommeil après un tel niveau de stress et d'adrénaline, et que votre premier réflexe et même votre seule envie a été de rallumer la télé et de regarder les images à nouveau.
Exactement.
Comme si, peut-être, c'est une question que je vous pose, votre cerveau n'avait pas eu le temps de pouvoir les intégrer et les comprendre.
Exactement, parce que je vous disais que j'étais téléspectateur en même temps que journaliste, mais j'étais quand même d'abord journaliste. Je venais d'LCI où j'avais une certaine expérience de l'info en continu. Donc immédiatement, j'avais des repères, j'avais des ficelles, j'avais des trucs pour pas trop m'égarer. Mmh. J'avais une rampe, un garde-fou. Et donc ces images, je les ai d'abord, malgré tout, commentées et vécues comme un journaliste. Et le scénario imaginé par Ben Laden et ses complices était tellement cinématographique dans son esprit. Il était fait pour ça, oui. Pour frapper les esprits, qu'on avait du mal à se persuader que c'était la réalité. Et effectivement, si j'ai regardé ces images seul chez moi à 2h30 du matin, c'est pour me persuader que c'était bien la réalité, là, comme simple citoyen affalé chez moi, en train de me pénétrer de ce spectacle.
Oui.
Parce que c'était conçu comme un spectacle.
C'était conçu comme un spectacle, et justement, ça posera une foule de questions dans la presse, dans les semaines qui suivent, une fois qu'on est remis du choc, de la sidération et de l'effet de terreur. Il y a de grands intellectuels qui prennent la plume, qui essayent de réfléchir au poids, au pouvoir et à l'impact de ces images. Un universitaire américain, Robert Thompson, écrira dans Le Monde et puis dans Télérama: pendant les deux premières heures, les médias étaient contrôlés par les terroristes. Nous avons vu exactement ce qu'ils voulaient qu'on voie. Et les télévisions n'avaient pas d'autre choix que de montrer ces images. Je comprends, David Pujadas, quand vous dites « on a eu raison de passer en Breaking News, on aurait dû passer en Breaking News plus tôt ». Mais au fond, c'est ce que voulaient les terroristes.
Mais les
c'est
terroristes...
que le monde entier soit stupéfait et vrillé devant sa télé.
Mais le terroriste, ça vient du mot « terroriser ». Et d'une certaine manière, on fait toujours ce que les terroristes attendent d'une démocratie. C'est-à-dire, on est saisi d'effroi. Mmh. Mais même quand il n'y a pas les images. Donc j'allais dire, cette problématique, là, elle est presque renforcée parce qu'il y a les images. Mais même quand il n'y a pas les images, le fait qu'il y ait des breaking news quand il y a des attentats, même sans images, c'est ce que cherchent les terroristes aussi. Donc ils ont bien conscience de ça, qu'il peut y avoir 10 morts sur les routes tous les jours, ça ne fera jamais le même effet que 2 morts dans un attentat, mm-hmm. qui eux vont susciter une émotion et un effroi immense. Donc d'une certaine manière, le média, par définition, fait le jeu du terroriste. Le terroriste pense à la société médiatique. Il a compris la société médiatique. Mais est-ce que ça veut dire que nous, quand il y a un attentat, on va pas en faire un gros élément d'information? C'est impossible aussi.
Et en effet, Al-Qaïda et la figure de Ben Laden ont profondément bouleversé et fait évoluer les codes médiatiques de la communication terroriste. On vous écoute, vous, David Pujadas, quelques semaines après.
Oussama Ben Laden est bien vivant. Un nouveau message lui est attribué, une cassette audio, message vraisemblablement authentique selon la CIA. Un message assez récent puisqu'il comporte une allusion à l'arrestation de Saddam Hussein. Alain Chalvron, Aaron Diamond à Washington.
On l'avait presque oublié, éclipsé par Saddam Hussein. Et le voilà qui se rappelle au bon souvenir de l'Amérique, même si son discours s'adresse d'abord aux dirigeants du Golfe. Dont le tour,
oui, c'est quelques années après. Et justement, entre le 11 septembre 2001 et ces années qui ont passé, eh ben, on sent que vous avez appris à faire avec. Avec quoi? Avec du matériel de propagande, qui sont des outils de médiatiques extraordinaires, livrés par l'organisation terroriste, d'abord relayés par la grande chaîne Qatari Al Jazeera, et puis qui vous arrive, vous, journalistes occidentaux, qu'est-ce qu'on fait avec ces images? Est-ce qu'on les intègre comme n'importe quelle autre image à un JT?
Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on rediffuserait le son de la voix de Ben Laden.
C'est vrai?
J'en suis pas certain. Regardez ce qui s'est passé avec le groupe État islamique, Daesh. On a finalement adopté une position qui consistait, par exemple pour les images, à ne diffuser que des images gelées.
Mmh. Qu'est-ce que ça signifie, des images gelées?
Ça signifie qu'on ne voit pas la vidéo telle qu'elle a été mise en scène par les terroristes.
C'est-à-dire qu'elle a été retravaillée par vos soins?
Oui, elle a été simplement gelée, c'est-à-dire comme une photo.
C'est ça.
Et d'une certaine manière, on a finalement acquis l'idée que ce matériel vidéo-là était fabriqué pour qu'il soit diffusé, pour donner une certaine idée de la réalité, et donc que par principe, il ne fallait pas les diffuser. J'exagère un peu quand on dit qu'on ne les diffuse jamais, parce que dans les magazines d'information, par exemple, quand on a le temps, à ce moment-là, on les diffuse avec une Marie-Louise, vous savez, le blanc autour de l'image, c'est-à-dire on donne un statut particulier à cette image, et on la décrypte en même temps qu'on la diffuse. Mm-hmm. Mais au départ, je pense qu'on la diffusait comme une image comme les autres.
C'est ça.
Les médias, ils tâtonnent, les médias, ils découvrent, et puis les médias, ils apprennent, ou ils essayent d'apprendre. Et finalement, ils se mettent d'accord sur des compromis qui peuvent encore un peu évoluer, qui sont parfois les bons, parfois insuffisants, parfois excessifs.
Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas du tout la question, qui s'est posé après les attentats français de 2015, de savoir est-ce qu'on devrait par exemple anonymiser et ne pas offrir leur quart d'heure de célébrité aux terroristes. On sait très bien que Oussama Ben Laden est devenu une superstar médiatique, une superstar médiatique planétaire.
Voilà, pour Ben Laden, je pense que c'était difficile de l'anonymiser, parce que pour le coup, il était déjà connu, et puis c'est le chef Zarqawi en Irak. C'est un peu la même chose. En revanche, pour le terroriste lambda, si j'ose dire, cette question, elle a été aussi mise sur le tapis.
Oui. Et elle ressurgit aujourd'hui.
Elle ressurgit aujourd'hui avec Salah Abdeslam. Oui. Mais évidemment. Je comprends qu'on soit choqué quand on voit des bandeaux sur les chaînes info. Salah Abdeslam, deux points. Je ne suis pas mon seul maître et Dieu. Comme si on parlait de l'avocat de la défense, de la partie civile, comme si on parlait du président du tribunal, comme si cette déclaration était mise au même niveau que la déclaration d'un acteur public. C'est pas jouable.
Alors, il y a quelque chose d'autre qui faisait irruption dans l'arène médiatique, David Pujadas, il y a 20 ans. C'est l'idée que le 11 septembre n'est pas du tout ce que les médias ont bien voulu qu'il soit. Vous écoutez par ordre d'apparition Thierry Messant, Jean-Marie Bigard et Mathieu Kassovitz.
Cet avion, on en a perdu toute trace à 500 km de Washington, au-dessus de l'Ohio. Ouais. Il n'y a aucune nouvelle depuis. Et certainement, le gouvernement américain aurait des révélations à faire aux familles de ces victimes.
On est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces deux avions volent encore, c'est un mensonge absolument énorme, quoi.
Effectivement, il serait temps de faire le deuil de cette histoire qui n'est pas claire du tout pour les gens qui doutent que la version officielle du 11 septembre soit la bonne.
Alors, ces extraits s'étalent sur une dizaine d'années. Thierry Messant, ça s'est produit quelques mois après l'attentat sur le plateau de Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle. Et puis, petit à petit, les autres ont suivi. Est-ce que vous, journaliste, à l'époque, vous prenez la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'émergence d'une théorie sur des faits alternatifs, d'une théorie du complot, l'émergence médiatique de ces théories-là?
Alors oui, je pense qu'on en prend la mesure. D'abord, j'ai le souvenir que ces déclarations, là on entend les Français, mais il y a eu des Américains.
Bien sûr.
Elles ont été prises au sérieux par les médias. Il y a eu une première réaction qui était de les démonter, c'est-à-dire de consacrer des docs entiers à démonter les arguments des complotistes. Mm-hmm. On découvrait effectivement le complotisme. Ensuite, Thierry Messant, par exemple, qui avait un site qui s'appelait Boulevard Voltaire, je crois, ou qui était un acteur de la scène médiatique, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, ce passage chez Ardisson, et ça a été énormément reproché à Ardisson.
Oui.
Donc en fait, dès le départ, malgré tout, il y a une condamnation...
Une levée de bouclier.
Une levée de bouclier. Il y a, d'une certaine manière, un blackout, enfin, il y a une protestation, une levée de bouclier médiatique. Donc oui, je pense, malgré tout, c'était nouveau, honnêtement, le complotisme à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est étonnant, l'écho que ça a aujourd'hui.
C'est ça.
Jean-Marie Bigard... On l'entend sur les vaccins,
exactement.
On l'entendait autrefois sur le 11 septembre. Quel écho. Mais non, je pense quand même que là, les médias ont pris la mesure de ce que c'était. Oui.
Merci beaucoup, David Pujadas, d'être venu nous apporter ce témoignage 20 ans après. Et à ce soir, 18h sur LCI. Merci, David Pujadas. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia De Villers. Ce matin, un débat dans Grand Même Vous Fasse. Que pensez-vous des médecines dites complémentaires alors que tout au long de la crise sanitaire, de nombreux Français se sont tournés vers les médecines dites complémentaires pour soigner ou tenter de prévenir le Covid-19. On essaye d'y voir plus clair dans la jungle des thérapies dites alternatives. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.
Boîte noire.
Crash dans les Alpes, pour moins 300 passagers.
Comment expliquer les raisons d'un crash?
J'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
Quand même la boîte noire vous trahit.
Il y a un problème avec la boîte noire, elle a été falsifiée.
Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier.
Il y a eu un attentat.
Boîte noire.
Vous êtes allé trop loin.
L'enquête commence actuellement au cinéma.
Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites...
J'ai envie d'une nouvelle déco pour mon salon. Et j'ai vraiment beaucoup d'idées. Du coup, il me faut beaucoup, beaucoup de choix.
On vous répond, accédez depuis chez vous à des milliers d'articles sur leroymerlin.fr.
Et pour les plus impatients, nous livrons dès le lendemain.
Le Roi Merlin. Et vos projets vont plus loin.
Produits, tarifs et conditions sur leroymerlin.fr.
Le 26 mai 1964, un petit garçon de 11 ans, on le retrouve mort dans une forêt.
Philippe Jaénada.
Les journaux ne parlent que de ça. Il avoue, c'est lui, c'est l'étrangleur. Il s'appelle Lucien Léger, il est infirmier psychiatrique, 41 ans de prison. Tous ceux qui interviennent dans ce livre sont bien plus monstrueux que lui. D'ailleurs, il écrit « Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». Sauf que moi, j'ai gratté un petit peu et évidemment, je suis à peu près certain qu'il était innocent.
Au printemps des monstres de Philippe Jaénada, à lire maintenant aux éditions Miel et Barreau.
France Inter, journée d'hommage à Jean-Paul Belmondo.
Et toi ?
L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents, quoi encore, je sais pas, enfin tout.
1965, Pierrot le Fou.
Il est 10h, passé de 45 secondes sur France Inter. Retour de l'info, bonjour Laetitia Gaillet.